Donc bonsoir à tous. Donc effectivement, nous, on va vous parler du Vison d'Europe et la mise en œuvre d'un élevage conservatoire et toute la genèse, du coup, d'un élevage. Donc, pour le déroulé de la présentation, on va vous expliquer un petit peu qui est le Vison d'Europe, quelles sont les particularités de cette espèce et donc les problématiques liées à cette espèce, et notamment quel est l'état de conservation actuel du Vison. Et face à cet état de conservation, qu'est-ce qui a été mis en place, notamment grâce aux plans nationaux d'action, et comment on est arrivé à la création des élevages conservatoires du Vison d'Europe en France, et quelles sont à l'heure actuelle les actions de ces élevages. Donc, bon, on n'a pas la même bonne photo, c'est pas grave. Donc, le Vison d'Europe, de son nom scientifique Mustela lutreola, c'est un petit mustélidé qui fait à peine plus de 1 kg pour les mâles et qui a la caractéristique d'avoir une tache blanche qui prend à la fois la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il peut être confondu avec certains de mustélidés qui sont proches de lui. Donc, le Vison américain, qui lui a la caractéristique d'avoir une tache blanche uniquement sur la lèvre inférieure, qui ne remontera jamais sur la lèvre supérieure. Et vous avez le putois. Donc là, vous avez une photo de putois. Alors vous allez me dire, mais comment vous pouvez confondre un Vison d'Europe avec un putois, puisque là, on voit très très bien le masque facial. Vous pouvez voir sur les oreilles, du coup, la limite blanche. Mais il faut savoir qu'il y a des individus de putois qui sont dits mélaniques, sur lesquels on ne voit absolument pas le masque facial, on ne voit pas cette limite sur les oreilles. Et par contre, on voit très très bien une tache blanche, lèvre supérieure et lèvre inférieure. Il faut savoir que du coup, cette méconnaissance des différences qu'il peut y avoir entre le Vison d'Europe et certains de ses, du coup, de ses cousins, entre guillemets, a amené à la destruction non intentionnelle de Vison d'Europe. Donc c'est une espèce qui vit en milieu humide. Qui dit milieu humide, on a déjà parlé tout à l'heure, dit milieu menacé, milieu qui est souvent dégradé. Et donc ça fait partie des menaces qui pèsent sur cette espèce. Donc c'est une espèce plutôt crépusculaire, voire nocturne. Et en ce qui concerne sa reproduction, point important, il faut savoir que la femelle a une période de réceptivité qui est très courte, puisqu'elle a un œstrus d'en moyenne 3 jours par an. Ça a des vraies conséquences au niveau de l'élevage, puisque c'est un animal où on ne peut pas faire cohabiter mâle et femelle durant toute l'année. On peut uniquement les mettre ensemble sur la période de réceptivité de la femelle. Donc c'est une période qui va à détecter très très importante. Donc c'est un carnivore qui est relativement opportuniste, il mange aussi bien du rongeur de l'oiseau que du poisson, et comme il a été dit précédemment, qui a été très récemment classé comme en danger critique d'extinction. Donc là vous avez une carte de sa répartition, donc en rouge sa répartition supposée de base, on peut voir qu'il y a une diminution de plus de 90% de son aire de répartition en Europe sur le dernier siècle. Donc vous avez en orange les populations encore présentes sauvages, donc les populations les plus pérennes à l'heure actuelle sont les populations présentes en Roumanie et en Ukraine. On estime à peu près 1 000-1 500 individus ces populations, sachant qu'il y a de fortes menaces et notamment le développement des fermes à fourrure pour le Vison américain qui pèse lourdement sur ces populations. Vous avez en violet les populations russes, donc il faut savoir que tous les fondateurs de l'EEP Vison sont des individus venant de Russie, mais à l'heure actuelle, vu le contexte politique du pays, c'est difficile d'avoir des données exactes sur ce qui se passe au niveau naturel. Et vous avez donc à l'ouest le noyau franco-ibérique, donc avec une population en Espagne et en France, sachant qu'à l'heure actuelle, il n'y a très probablement pas de communication entre les populations espagnoles et les populations françaises. Et vous avez un tout petit point, alors je ne sais pas si vous le voyez, il est à côté de l'Estonie, bon, il faut que vous sachiez où est l'Estonie, mais il y a un tout petit point orange, du coup c'est l'île d'Iuma. C'est sur cette île qu'a été réalisée une réintroduction menée par Tite Maran et qui, à l'heure actuelle, est couronnée de succès puisqu'il y a une population sauvage, du coup, pérenne au niveau de cette île-là. Si on fait un focus un peu plus précis sur la situation de la France, vous avez de gauche à droite l'évolution de la répartition du Vison d'Europe en France depuis la fin du 19e jusqu'au début du 21e siècle. Donc vous pouvez voir une forte diminution de son aire de répartition avec à l'heure actuelle une présence uniquement dans 7 départements qui sont la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Lot-et-Garonne. Et un zoom encore un peu plus précis sur cette zone-là. Donc vous avez une carte qui a été constituée grâce aux données qui ont été récupérées lors des inventaires qui ont pu être faits et mandatés par les différents PNA. Plus vous allez dans les couleurs sombres de la carte, plus vous avez des données récentes. Et pour vous mettre des chiffres un petit peu face à ces couleurs, lors du premier PNA, c'est à peu près 195 visons qui ont été contactés pendant les prospections. Et lors des dernières prospections, ce sont 9 visons qui ont été prospectés. Bon, on n'est pas non plus sur le même nombre de nuits pièges qui ont été réalisées, mais ça vous montre quand même la tendance sur cette espèce. Et donc du coup, face à cette situation, différents plans nationaux d'action ont été mis en place. Le premier plan national d'action a couru de 1991 à 2003. Donc les points suivis pour ce PNA étaient de poursuivre et de développer les recherches. C'est dans ce cadre-là du coup qu'ont été faites les prospections pour déterminer l'aire de répartition de cette espèce, d'assurer la protection et la restauration de ses habitats, donc notamment des milieux humides, de connaître et de combattre les causes directes de mortalité. Donc je vais juste m'arrêter sur ce point-là. Donc on a déjà parlé de la destruction par méconnaissance ou par confusion avec le putois ou le vison américain. Dans les départements de présence du vison européen, il a par exemple été demandé de retirer le putois des listes des animaux nuisibles pour éviter ce genre de confusion. En ce qui concerne le vison américain, donc en plus de cette confusion qu'il y a pu y avoir, le vison américain occupe la même niche écologique que le vison européen. Il est donc en compétition pour les habitats et pour l'alimentation. Il y a des cas d'agression de visons américains sur du vison européen qui ont été constatés, notamment lors de programmes de réintroduction de visons européens en Espagne. Vous avez également le vison américain est porteur d'une pathologie qu'on appelle la maladie alouétienne qui touche plusieurs mustélidés. Et il a été remarqué que la prévalence de cette pathologie est plus importante chez le vison européen quand celui-ci est en présence dans une zone de présence du vison américain que quand il est hors zone de présence du vison américain, sachant que c'est une pathologie qui va amener des problèmes d'infertilité, d'avortement et donc des vraies problématiques de reproduction et donc de subsistance des populations. S'ajoute à cette cause, une cause très directe sont les collisions routières. Il faut savoir que sur les dernières études, ça représente plus de 60% des décès des animaux qui ont été trouvés, donc qui sont décédés par collisions routières. Donc c'est un vrai travail avec tous les acteurs de création de ces infrastructures pour travailler sur des infrastructures qui limitent la mortalité et également réhabiliter des points noirs concernant le vison à ce sujet-là. Et puis vous avez une cause qui est aussi beaucoup plus intrinsèque, et c'est la génétique de ces populations. La population, la souche franco-ibérique de vison est très pauvre en comparaison à la souche d'Europe de l'Est, avec très peu de polymorphisme génétique, et donc une population qui est beaucoup plus sensible aux événements stochastiques, mais sur lequel également on peut avoir des problématiques du coup de reproduction. Et du coup, différentes actions ont été mises en place, donc, comme je vous l'ai dit, pour limiter ces causes de mortalité, et notamment donc, sensibiliser et informer notamment les usagers, par exemple, pour les piégeages, pour éviter la destruction de cet animal. Donc, le premier PNA a permis de mettre en évidence, sur les plus de 10 ans qu'il a couru, une vraie poursuite du déclin de cette espèce. Sur les 10 ans, on a pu voir une poursuite de la fragmentation et de la fragilité de ces populations. Et sachant que les actions qui sont mises en place, elles nécessitent un petit peu de temps pour pouvoir montrer leurs fruits. Dès le deuxième plan national d'action, donc qui court de 2007 à 2011, il a été décidé de mettre en œuvre un programme de renforcement et de réintroduction de l'espèce, avec pour objectif opérationnel donc de créer les élevages. Donc dès le deuxième PNA concernant le vison d'Europe, on voit l'apparition des élevages avec comme action développer les échanges internationaux et définir un cahier des charges pour la création de cet élevage. Je voudrais juste quand même revenir sur les 3 autres points de ce PNA qui sont mettre la conservation du vison d'Europe au cœur des politiques publiques. Il faut savoir que le premier PNA n'a jamais été signé par le ministère de l'Environnement. Et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'un animal que l'on souhaite protéger, il faut d'abord le connaître. Donc c'est faire connaître cet animal, que les politiques prennent en charge cette espèce pour qu'on puisse vraiment agir dessus. Continuer la protection du vison in situ, comme il a été commencé donc, sur le premier PNA, et continuer à développer l'animation et la communication autour de ce second PNA. Suite au second PNA et face à l'urgence de la situation et la lourdeur qu'il y a à monter un PNA, il a été décidé de monter un plan intermédiaire, donc de 2015 à 2019, pour pouvoir agir rapidement. Donc sur ce PNAI, 3 axes ont été repris. Donc on continue le suivi de cette espèce sur son territoire. On continue la lutte contre les facteurs de menace. Et l'axe 3 qui reprend donc cet axe de stratégie de conservation et de renforcement avec le lancement fonctionnel des élevages. Et du coup, à l'heure actuelle, on en est maintenant à la rédaction du troisième PNA. On prend le temps de rédiger ce troisième PNA qui durera donc sur 10 ans, de 2020 à 2030. Donc avant de laisser la parole à ma collègue qui va vous parler plus précisément de la création de l'élevage, juste pour vous dire qu'à l'heure actuelle, de 2017 à 2022, court également Live Bison en parallèle des PNA, avec des actions qui sont très in situ, mais bien sûr qui sont nécessaires pour ensuite les projets notamment de renforcement et de réintroduction qu'il pourrait y avoir pour le Bison.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler principalement de la création de l'élevage et puis des actions des élevages de Visons d'Europe. Donc, tout d'abord, un appel à projet a été lancé en 2009 par le ministère de l'Écologie pour la construction donc, d'un élevage. Plusieurs parcs ont répondu favorablement, dont Zoodyssée dans les Deux-Sèvres et la réserve zoologique de Calviac en Dordogne. Zoodyssée a été sélectionné notamment parce qu'en se situant au sud des Deux-Sèvres, on est dans la zone de potentielle recolonisation de l'espèce. Également, c'est un parc spécialisé en faune européenne depuis plus de 40 ans, avec de la reproduction régulière de loutres, donc la maîtrise de reproduction de mustélidés. Également, nous avons deux élevages conservatoires, notamment la Cistude d'Europe, dont on a parlé tout à l'heure, et puis l'outarde canepetière, ma collègue en parlera demain. La construction de l'élevage a pris 4 années, elle s'est finie fin 2014. On a eu plusieurs partenaires financiers donc, qui ont participé à cette création, donc le département des Deux-Sèvres étant le propriétaire du site, également la région Aix-Aquitaine et Aix-Poitou-Charentes, l'État et puis l'Europe avec les fonds FEDER. La proposition était basée sur un élevage d'une capacité de 60 individus, avec tout d'abord un bâtiment central disposant d'une salle vétérinaire, d'un bureau pour le visionnage des vidéos, également de deux salles de quarantaine. On peut voir sur la photo du haut en haut à gauche des galeries en fait, qui se situent de chaque côté du bâtiment. Donc, ce sont des galeries avec des enclos grillagés de 12 mètres carrés. Elles sont grillagées, elles sont non couvertes pour que les animaux profitent des conditions climatiques. Ces enclos donc, sont aménagés d'un substrat naturel, donc de terre enherbée, de gravier. On y a mis des décors naturels aussi, et puis on enrichit régulièrement l'enclos avec des ballons ou des tubes plastiques, de façon à complexifier au maximum l'environnement des individus. Il faut savoir que c'est un animal très territorial qui a un fort besoin de stimuler en fait, son comportement exploratoire. Donc, c'est pour ça qu'on change régulièrement les décors des enclos. On peut voir aussi à l'intérieur donc, du couloir de travail, il y a des hublots qui permettent de voir les individus qui sont dans les enclos. Donc, ça permet de les observer sans les déranger. On peut voir également donc, des boîtes nichoirs qui sont accrochées à cette galerie. Elle comporte deux compartiments, une partie latrine, une partie chambre. À l'intérieur de la partie latrine, on peut y insérer une cage de contention qui est très pratique, notamment pour peser les animaux ou pour faire des prélèvements. Comme le disait Laurie, la période de réceptivité de la femelle est très courte. Elle se détermine par des frottis vaginaux, donc c'est très important de pouvoir accéder à ces femelles et puis de pouvoir détecter le plus tôt possible ces chaleurs. Enfin, on n'a pas de temps à perdre. Hein. Une journée perdue, c'est une journée de moins où il peut y avoir des accouplements. Ensuite, une fois que l'élevage était créé, s'est posée la question en fait, de la provenance de nos animaux pour créer notre cheptel de reproducteurs. Comme l'expliquait Laurie, il y a une souche donc, d'Europe de l'Est et une souche franco-ibérique. La souche d'Europe de l'Est rentre dans l'EEP qui a été initié en 1991. Le coordinateur européen est Itmar Han, qui travaille au jardin zoologique de Tallinn en Estonie. Et du coup, il y a également en parallèle une démarche similaire qui a été créée à partir de 2004 en Espagne, coordonnée par Madis Podra, qui comporte un petit peu moins de structures. La structure principale en Espagne, est en Pontsuerte. Et pour la souche d'Europe de l'Est, les structures principales sont en Estonie, donc le zoo de Tallinn, et puis en Allemagne, la fondation Ronertz. Donc, on a finalement choisi de partir sur la souche d'Europe de l'Est parce qu'on avait accès à un plus grand nombre de reproducteurs et également une plus grande diversité génétique. C'est comme ça qu'en avril 2015, on a reçu nos premiers animaux, donc un couple du zoo de Tallinn. Et 4 ans après, on a 14 visons, 6 femelles et 8 mâles. On s'est appuyé sur l'expertise des centres estoniens et espagnols pour améliorer nos méthodes de travail, également construire aussi l'élevage, parce que l'élevage et les enclos ont été conçus selon les directives guidelines de la Fondation Lutreola, dont Tite Maren est membre. Tite Maren nous a également dispensé une formation sur la reproduction, l'alimentation, l'enrichissement. Il nous a présenté également les études réalisées sur les relâchés. Une visite est prévue en 2020 pour voir les installations et puis justement voir aussi la mise en place de la reproduction qui est quand même très importante. En Espagne, on a des échanges réguliers avec les Espagnols, des visites également qui ont eu lieu. Et en France, comme le disait Laurie, donc la période de réceptivité des femelles est très faible, mais on a également un autre problème qui est le comportement en fait, des mâles captifs. La majorité des mâles en fait, sont de très mauvais reproducteurs en captivité. Ils sont soit agressifs, soit passifs, ce qui est un vrai problème. Donc du coup, on s'est lancé dans un projet d'insémination artificielle en 2018, ça a permis en fait de voir les difficultés qu'on avait pu rencontrer, notamment sur le prélèvement des mâles et puis et l'insémination des femelles. Donc on a d'autres projets, j'en vais en venir un peu plus tard. On a également un partenariat financier, notamment avec l'ONCFS et puis Terega, qui est anciennement TIGF, c'est une société de réseau de transport de gaz. Ça nous a permis en fait de financer notre système de caméra qui est très très important dans notre travail au quotidien, notamment pour la suivi des mises en contact. Ça permet de savoir en fait le comportement des individus sans altérer justement leur comportement, étant donné qu'auparavant, les années d'avant, on les surveillait en fait en étant derrière la porte par le hublot. Et maintenant, on peut les suivre à distance et voir s'il y a eu des accouplements ou pas, chose que nous ne pouvons pas savoir les années d'avant. Donc cette année, on a pu voir des accouplements qui ont eu lieu. On a pu suivre également des mises bas, dont une mise bas en direct. Et puis la croissance des jeunes. Ensuite, on a pu équiper notre salle vétérinaire, notamment en matériel d'anesthésie, de chirurgie, et qui pourront vraiment nous aider pour poursuivre notre projet d'insémination artificielle. Donc tous ces partenariats nous ont permis de monter en puissance et puis d'avoir nos premiers jeunes cette année, les premiers jeunes visons français. Donc comme le montrait Laurie sur les cartes, il y a différentes populations en fait, de visons qui sont séparées géographiquement. Donc une des premières actions de l'élevage, c'est tout d'abord la conservation ex situ de l'espèce. Cela passe par la production de jeunes, bien sûr, pour augmenter le nombre de reproducteurs. Mais également, ça sert de réserve génétique. C'est-à-dire que le fait d'avoir des animaux captifs dans différents endroits, dans différents centres, permet de limiter les risques sanitaires s'il y a des épidémies ou s'il y a des incidents géographiques ou climatiques. Donc c'est vraiment une protection d'avoir des centres collaborateurs autour de plusieurs centres principaux.
2 minutes.
Tout d'abord, également une des missions principales, c'est la mission scientifique qui permet notamment une meilleure connaissance sur l'espèce, comme c'est une espèce très discrète dans le milieu naturel. On peut justement participer, par exemple avec l'ONCFS ou le GRECH, qui est un bureau d'études pour l'environnement, de participer donc en les aidant sur la recherche d'indices de présence de l'animal. Le GRECH en fait, a fait des essais de plateforme empreinte qui sont venus tester à l'intérieur de l'élevage pour voir comment réagissaient les animaux et du coup améliorer leur matériel si besoin. Et puis on a aidé l'ONCFS qui est en train de former un chien de détection des fesses en milieu naturel en disposant notamment en leur proposant un terrain d'entraînement pour le chien. Le projet donc, d'insémination artificielle avec Maison Alfort a eu lieu donc, en 2018 et sera à poursuivre. En 2020, donc, on va travailler avec la faculté de Liège sur l'étude du microbiome du vison d'Europe. Donc on a différents projets scientifiques. Ensuite, l'élevage a également une mission de communication et de sensibilisation importante. Calviac, qui a également un petit centre d'élevage, donc a reçu cette année le trophée de la biodiversité d'UNESCO pour ses projets de conservation, notamment le vison. En 2018, le film Sauvons le vison d'Europe, qui a été diffusé au Festival international du film ornithologique de Ménigout. Ce film a été réalisé sur 3 allées, nous ont suivi nous à l'intérieur de l'élevage, mais également les différents acteurs qui gravitent autour du vison. Donc ils ont été visiter les élevages espagnols, ils ont rencontré Emmanuel Mouton de Calviac et puis Tite Maran, donc en Estonie, à Tallinn. Et puis donc d'autres communications sont faites régulièrement dans les journaux locaux ou régionaux, notamment cette année sur les naissances. Des animations également sont faites à Zoodyssée ou à Calviac régulièrement sur cette espèce. Et en 2020, on a un projet d'article sur Terre sauvage. Tout d'abord, je voulais vous dire que l'élevage, on est qu'au début, on n'a pas beaucoup de recul. C'est quand même un centre très récent. Ces premières naissances en France de visons d'Europe de façon naturelle sont très encourageantes. Et notre but, c'est d'augmenter tout d'abord le nombre de reproducteurs afin de participer plus tard à des relâchés. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup.